Bonjour Lionel Landard.
Bonjour.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Bienvenue et merci de participer à notre émission La Personnalité du Mois sur la web radio d'Onibané.
Eh bien peut-être que nous pourrions commencer cette émission, Monsieur Landard, en vous demandant de vous présenter peut-être.
Alors moi je suis Lionel Landard, j'ai 56 ans bientôt. Je suis prêtre depuis 28 ans bientôt. Et je suis à Saint-Jean-de-Luz depuis bientôt 6 ans. Auparavant, je suis né à Saint-Jean-de-Luz, puisque la maternité se trouvait là. J'ai grandi à Asquin. J'ai ensuite été faire des études à Sainte-Marie de Saint-Jean-de-Luz, Ustaritz, Villapia, puis le service militaire, puis le séminaire. Ensuite, j'ai été vicaire à Andail. J'ai été vicaire à la cathédrale de Bayonne. J'ai été prêtre étudiant à Lyon. J'ai été vicaire à Guétary, pardon, j'ai été vicaire à Anglet, curé de Bidart et Guétary, puis vicaire général, recteur de la cathédrale et curé de Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz, c'est Saint-Pierre de l'Océan. En fait, c'est Saint-Jean, Urugne, Cibourg et Socoa.
Pouvez-vous nous expliquer, Lionel, votre mission aujourd'hui plus précisément ?
Alors, c'est celle d'un curé, c'est-à-dire c'est celui qui a charge d'âme finalement, hein, c'est la traduction littérale. Le curé, c'est celui qui veille à ce que dans une paroisse, un territoire géographique qui lui est donné, qui lui est confié par l'évêque et diocésain, puisse être vécu la foi chrétienne dans son expression habituelle, c'est-à-dire avec le culte, avec un enseignement, et puis dans le cadre d'une vie paroissiale qui est gouvernée par lui-même. Et il n'est pas tout seul. Il y a un conseil pastoral, un conseil économique. Il y a aussi d'autres prêtres qui sont là et qui travaillent avec lui, avec le curé. Il y a aussi ici un jeune diacre. On a aussi un séminariste qui nous a été confié par le supérieur du séminaire. Et puis tout plein de laïcs qui sont très partie prenante des activités de la vie paroissiale.
Un petit mot peut-être sur la catéchèse avec l'école de la Sainte Famille. C'est un petit peu particulier sur le diocèse.
Alors ça oui, c'est sûr que... À une période où ici, dans cette paroisse, on se désespérait un petit peu du côté de Saint-Jean-de-Luz de perdre des enfants en catéchèse, monsieur le directeur de la Sainte Famille, Franck Etève ici présent, a fait la proposition que la catéchèse puisse avoir lieu dans le cadre de l'établissement pendant la semaine. Alors, moi, ça m'a paru une très 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 bonne idée et donc on a vite décidé que c'était comme ça qu'on allait faire. Et ce qui fait que du coup, ça nous a fait évidemment une participation au catéchisme qui est beaucoup plus important à l'heure actuelle grâce à cet établissement scolaire qui répond bien à sa vocation qui est celle de l'enseignement catholique. Et donc du coup, on a la possibilité d'avoir pas mal d'enfants qui entendent le message de l'Évangile.
Alors peut-être justement pour ces enfants qui nous écoutent là dans cette émission, est-ce que vous pourriez peut-être définir un petit peu les différences entre séminariste, prêtre, diacre, curé ? Ce sont les termes que vous avez utilisés tout à l'heure.
Le séminariste, c'est un homme qui se prépare à devenir prêtre. Donc il y a une formation, c'est comme quand on fait des études pour être spécialisé dans une formation professionnelle, dans un métier, etc. Là, il y a une formation qui consiste à faire 2 années de philosophie, puis il y a un stage en général, puis il y a 3 années de théologie, puis il y a encore une année où on est diacre. Donc ça veut dire qu'on a reçu une ordination, un sacrement, qui fait qu'on a la possibilité de pouvoir célébrer certains sacrements. Le diacre peut célébrer le baptême et le mariage, par exemple. Il peut présider les prières, des choses comme ça. Et ensuite, au bout d'un temps de diaconat qui dure... au minimum 6 mois, selon le droit de l'Église, on reçoit le sacrement de l'ordre qui fait de vous un prêtre. Et donc à partir de ce moment-là, on est un collaborateur de l'évêque et on reçoit sa mission de la part de l'évêque et on assure sa mission autant qu'on peut le faire, autant qu'on a de la ressource pour y arriver. Et puis ensuite, on rencontre l'évêque régulièrement pour faire le point. Ou un de ses adjoints, parce qu'il a des personnes qui travaillent très près de lui et qui peuvent aussi nous aider à avancer, à discerner, à comprendre. Et on fait le point, puis de temps en temps, on est invité à aller ailleurs, à faire autre chose. Toujours au service de l'Église.
Merci. Peut-être pour enchaîner justement en parlant de l'école, est-ce que vous auriez-vous une anecdote de l'école à nous raconter ?
Alors, dans les écoles où je suis passé, c'était des écoles qui étaient toutes catholiques. Un peu comme la Sainte Famille. Dans ma petite école, moi je me souviens de, de cours de récréation surtout. Voilà. C'était ce moment-là qui était très important pour moi, la récré. Après, je n'ai pas trop de souvenirs pendant les heures de cours, etc. Mais, alors, mais par contre, la cour de récréation, c'était un lieu très très important de vie. Il se passait beaucoup d'interconnexions entre nous, etc. Et des copains et des copines, c'est là qu'on se les faisait. Ce n'était pas en faisant des mathématiques ou en faisant du français. Ensuite, en collège, je me souviens que, comme j'étais pensionnaire à Ustaritz, on a pu développer des activités périscolaires, notamment le mercredi après-midi, puisqu'on ne rentrait pas à la maison. Et donc, il y a eu pas mal d'activités comme du théâtre, par exemple, des choses comme ça qui étaient intéressantes, qui permettaient aussi de s'exprimer et puis de passer un bon moment, en fait. C'était ça qui était sympa, c'était passer un bon moment. Moi, j'ai toujours trouvé que dans l'école, ce qui me paraissait intéressant, c'était qu'on était une communauté humaine, une communauté de vie humaine, et qu'on était les uns avec les autres. Voilà. Alors, de temps en temps, on était les uns contre les autres, parce qu'il y avait des divergences de vues, mais les uns avec les autres. Et on faisait cette petite communauté-là, et nous, on tirait parti de tout ce qui était présenté dans la journée, ou dans la semaine, ou dans l'année, pour pouvoir vivre véritablement cette communauté humaine. Et les enseignants ou les surveillants qui passaient par là étaient un peu comme des espèces de, comment dirais-je, d'animateurs de cette communauté humaine, et nous donnaient la possibilité de rebondir sur ce qu'ils avaient dit, ce qu'ils avaient fait, de leurs émotions, etc., et tout ça, pour pouvoir nous en parler en cours de récré. Et c'est comme si on assistait à une espèce d'immense pièce de théâtre. Et tous les professeurs et tous les enseignants et tous les cadres qui étaient là, c'était des acteurs pour nous. Et ils nous donnaient cette représentation qui était en 3D, magnifique, qui durait très très longtemps, pour lesquels nos parents payaient bien sûr le ticket d'entrée au théâtre. Et on assistait à ça et c'était très très amusant. Et alors évidemment, on faisait des imitations par la suite et on s'amusait encore plus de tout ce qu'on avait pu voir chez les enseignants.
Merci Lionel. Je comprends mieux aujourd'hui les quelques échanges qu'on peut avoir avec ce que vous venez de nous expliquer. Si je vous dis 2018, mis à part le fait que la France a gagné pour la deuxième fois la Coupe du Monde, qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette date?
Alors en 2018, l'école de la Sainte Famille m'a proposé de faire partie d'un petit voyage qui était court dans le temps, mais qui était très intense dans ce qui a été vécu. D'abord parce que c'était là aussi une petite communauté, c'était des élèves de CM2, je crois, qui était amenée par Aurélie, une des enseignantes, à Paris pour rencontrer des institutions de la République et de la représentation démocratique. Et là, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et je me suis même dit, quand on passait au Palais Bourbon pour voir les députés, au Palais du Luxembourg pour voir les sénateurs, au Palais de Marigny pour voir le Premier ministre, enfin, on a vu c'est les personnes qui travaillaient avec lui, pas lui directement parce qu'il était en réunion, on a quand même mangé un excellent gâteau au chocolat qui est servi à la table du Premier ministre et bu un superbe jus d'orange aussi dans la grande salle du Conseil. On s'est baladé dans les jardins du parc de Marigny. Là. C'est pas Marigny, ça s'appelle comment ?
Matignon.
Et donc là, je me suis dit, en voyant que tous ces CM2 étaient là en train de découvrir ces choses merveilleuses, je me suis dit, mais ça serait même bien que des équipes de conseillers municipaux et d'adjoints puissent vivre le même voyage que nous, aller voir ces mêmes institutions et se rendre compte comment la République fonctionne, etc. Mais à ce niveau-là, au niveau national à Paris. Bon. Donc ça, c'était la partie qui était celle qui entraînait, je dirais, tout le voyage. Et puis, il y a eu aussi un petit moment où on est allé à Notre-Dame de Paris. Et là, il y a quelque chose de très amusant qui s'est passé parce que le prêtre qui était de service pour la messe à laquelle on a participé a accueilli la délégation que nous étions, enfin la délégation, le groupe que nous étions, les petits Lusiens, en leur disant « Ben voilà, écoutez, bienvenue à Notre-Dame de Paris. Alors je suis désolé, ça n'est pas aussi beau que le rétable de l'église de Saint-Jean-de-Luz, mais on espère quand même qu'on va vivre un bon moment pendant cette messe. » Ça, j'ai trouvé que c'était quand même très très fort et que les petits Lusiens étaient super bien accueillis à Notre-Dame de Paris.
Sachant qu'il vient régulièrement en vacances à Cibourg,
oui,
si j'ai
ça,
bien entendu.
Oui, c'est ça, oui, il vient en vacances par ici, oui.
Et bien entendu, c'était avant le grand malheur du grand incendie, et c'est vrai que ça donne plus de hauteur et de profondeur à ce que nous avons vécu.
Est-ce que vous pourriez partager avec nous un petit mot sur Saint-Jean-de-Luz ? On a vu dans votre parcours que c'est un lieu où vous êtes né et que vous êtes revenu régulièrement.
C'est ça. Pour moi, Saint-Jean-de-Luz, c'est mon lieu de naissance. Donc Saint-Jean-de-Luz, ça me colle à la peau parce que c'est sur ma carte d'identité. Donc de naissance, je suis lusien, même si après j'ai grandi à Asquin pendant toutes mes jeunes années. Mais voilà, bon, c'est une ville qui est en fait un gros village avec cette artère principale qui est la rue Gambetta, qui est très commerçante, comme on le sait, et qui est attractive. Donc c'est un lieu où, par exemple, moi, comme jeune, dès que j'ai eu la mobilette, depuis Asquin, je venais jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. Voilà. Et c'était important pour moi de pouvoir avoir cette liberté aussi, d'évoluer dans cette petite ville, en toute sécurité, bien évidemment, c'était il y a pas mal d'années quand même. Et puis de pouvoir retourner chez moi en ayant acheté 2-3 bricoles, etc. Voilà, bon, c'était le lieu pour exercer une forme de liberté. Après, c'est sûr que Saint-Jean-de-Luz a beaucoup de charme. Elle est très bien placée sur la carte de France. Les maisons sont belles, les commerces sont beaux aussi, la baie est splendide, le port a beaucoup de charme, sans parler de l'église évidemment, qui est d'une part esthétiquement très belle, d'autre part avec une taille impressionnante, et puis c'est quand même un lieu historique où s'est marié Louis XIV, ce qui n'est pas rien, et qui fait que je pense, moi, qu'à Saint-Jean-de-Luz, on surfe encore un peu sur la vague du mariage de Louis XIV plusieurs siècles après.
Est-ce que vous pouvez nous dire aussi un petit peu, à l'épiphanie, il se passe quelque chose d'assez incroyable. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu plus ce qui se passe?
Alors l'épiphanie, c'est la fête de l'annonce de la naissance de Jésus à toutes les nations. Ça, c'est ce qui se vit sur la planète entière quand on fête l'épiphanie, c'est-à-dire deux dimanches après Noël. Mais à Saint-Jean-de-Luz, ça revêt une tonalité particulière parce que l'épiphanie de Saint-Jean-de-Luz, c'est l'occasion de faire une petite promenade, une petite procession dans les rues avec des jeunes gens qui sont en costume de rois mages. Il y en a 3, selon la tradition évidemment, parce que même l'évangile ne nous dit pas combien ils étaient en réalité, mais comme il y avait l'or, l'encens et la myrrhe, on a estimé que 3 c'était un chiffre qui les représentait bien. Et ces jeunes se promènent dans la ville comme ça, au son des tchistous et des tchoun-tchoun. Et puis finalement ils arrivent à l'église où là il y a une célébration des vêpres qui est célébrée, qui est vécue. Et pendant laquelle, à l'occasion d'un chant qui s'appelle Christogusiek des Sagoun, c'est-à-dire Nous adorons le Christ, ils vont chacun à leur tour, à l'appel de leur nom, si je peux dire, parce qu'il y a un couplet pour chaque personnage, un pour l'étoile, un pour Balthazar, un pour Melchior, un pour Gaspard, ils vont aller se mettre devant le Saint-Sacrement qui est exposé dans un ostensoir et faire un acte d'adoration. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez spécifique de Saint-Jean-de-Luz. Et même si en Espagne, par exemple, on a beaucoup de rois mages qui font la cavalcade dans les rues sur des chevaux, bien des fois des dromadaires ou des choses comme ça, nous, on n'a pas ce genre d'animaux ici à Saint-Jean. Mais il n'empêche qu'ils ne rentrent pas dans les églises. Ça reste uniquement en ville, c'est dehors. Ils jettent des bonbons aux enfants, etc. Et tout ça, mais ils ne sont pas dans les églises. Ici, à Saint-Jean-de-Luz, ils rentrent dans l'église et c'est l'occasion d'un temps de prière, en fait, pour la communauté.
Et cette année, Lionel, les costumes des mages étaient un peu fatigués et vous avez fait appel à quelqu'un qui a du savoir-faire.
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, nous avions reçu le 8 octobre 2020 la visite de Jean-Paul Gaultier à l'église de Saint-Jean-de-Luz parce qu'on lui avait dit « Nous avons l'intention de rafraîchir un peu les costumes des rois. Est-ce que vous pourriez venir jeter un coup d'œil là-dessus ?» Alors, il est très gentiment venu. Il habite à Saint-Jean-de-Luz. Il a une maison. Et donc, il est venu nous voir. On a passé, je pense, 2 heures dans la sacristie à discuter, à retourner les tissus, etc., tout ça, à faire des propositions. Mais il a surtout, lui, été impressionné dans l'église par 3 choses. En termes de couleurs, il y avait d'une part la robe noire et or de la Vierge espagnole du calvaire qui se trouve sur le côté. Il y avait la couleur bleu canard, telle qu'il l'a nommée, avec les dorures et la partie argentée autour du tabernacle. Et puis il y avait aussi la voûte du chœur qui est plutôt rouge et or. Et alors après, 4 jours après, il est venu nous voir et il nous a laissé quelques dessins de silhouettes, de personnages, quoi, enfin des croquis, en nous disant « Vous pourriez faire comme ci et comme ça ». Très bien. Alors évidemment, les dessins n'étaient pas signés, c'était juste une proposition, une inspiration. Et donc nous, on a joué sur cette inspiration, sur les couleurs dont il avait parlé, le bleu, le noir, le rouge. Et puis on est parti avec notre atelier de couture à fabriquer les costumes. Alors c'est pas des costumes Jean-Paul Gaultier, on est d'accord, il n'a pas vu le travail, il n'a pas suivi le boulot des couturières. Il n'était pas là pour voir ce qui sortait de l'atelier, mais il nous a inspiré très sérieusement avec ce qu'il avait vu, et on s'est dit que si lui il voyait ça, nous il fallait qu'on puisse le réaliser. Donc on l'a fait. On a été aidé en cela par un autre couturier de haute couture qui est Stéphane Roland, et lui nous a envoyé des tas de chutes d'ateliers. Donc des broderies fines, des choses avec des strass, avec des pierres Swarovski, avec des sequins, des tas de trucs comme ça. Enfin, les couturières étaient folles de joie, il fallait les voir. Quand elles ont vu arriver la boîte avec tout ça à l'intérieur, elles étaient très, 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 très heureuses. Et puis elles ont beaucoup travaillé avec toutes ces choses-là. Et ce qui nous a donné les costumes actuels des rois mages, donc qui sont assez différents de ce qu'il y avait avant, ça c'est sûr, pour le coup. Mais avec l'inspiration des couleurs de Jean-Paul Gaultier, mais ce n'est pas vraiment du Gaultier.
Peut-être pour terminer, auriez-vous un petit mot à nous partager sur la web radio et sur cette proposition qu'on fait, ouais, aux élèves ?
Alors moi, je trouve que c'est très très bien parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est important d'être connecté, et on se rend compte avec les réseaux sociaux que les jeunes sont de plus en plus connectés, sont de plus en plus en lien les uns avec les autres, etc. Mais de temps en temps, c'est de manière un petit peu irrationnelle, un peu trop sensationnelle ou bien émotionnelle. Bon. Et je pense qu'ici, dans un établissement comme ça, si vous les invitez à participer à ce genre d'émission et à la réalisation des émissions, ils vont voir que ce n'est pas simplement envoyer un message qui fait de vous un communicant, mais c'est peut-être avoir une certaine rigueur, se forcer à écrire des questions, réécrire ensuite l'interview pour que ce soit plus honnête avec l'idée qu'on en avait au départ et plus respectueux vis-à-vis de la personne qui est interrogée, etc. Tout ça, pour que tout le monde s'en sorte grandi, si je peux dire, et qu'on ait une vraie communication et pas des émotions, des impressions, des choses comme ça qui sortent à la va comme je te pousse, un peu comme une vague viendrait effacer une autre vague.
Eh bien, il nous reste à vous remercier. Merci infiniment, Lionel Landard. Merci, Jérôme Gaillard, pour ce moment partagé. Et on vous dit à très bientôt pour la prochaine Personnalité du Mois sur Web Radio Denis Banet.